Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est mercredi 10 novembre, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va entendre ou réentendre cette interview, l'interview de Gabriella. Gabriella qui a raconté ce matin à Agathe Le Caron avoir rencontré sa famille biologique à l'âge de 18 ans. Voilà, donc déjà on imagine le parcours pour en arriver à cela, et puis surtout les questions que ça a pu susciter dans la tête d'une jeune fille de 18 ans. Donc on écoute ce témoignage très fort, je vous préviens tout de suite, et puis derrière, on va commenter tout cela, parce qu'évidemment, ce genre de témoignage suscite énormément de questions, avec la psychologue Fanny Cohen-Herlem. C'est parti.
Bonjour Gabriella, vous êtes née à Bogota en Colombie il y a 25 ans et à l'âge de 4 mois, vous avez été adoptée par un couple de Belfort. Comme beaucoup d'enfants adoptés, vous avez un jour voulu connaître le début de votre histoire, c'est souvent le cas. Déjà, comment est-ce que vous avez appris que vous étiez adoptée ?
Je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas du jour où on m'a dit que j'étais adoptée. Je pense que ça s'est fait très naturellement, comme... On explique que papa a mis la petite graine dans maman. Moi, on m'a expliqué ça, mais on m'a dit que ma maman n'avait pas pu me garder, mais qu'elle m'aimait beaucoup. Et que c'est pour ça que j'avais été adoptée par une autre famille. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Quoi.
Et vos parents vous ont raconté quand même comment ça s'était passé ?
Mes parents nous racontaient souvent quand on était petit avec mon frère le jour où ils nous ont accueillis, que toute la famille était là, que tout le monde nous attendait avec beaucoup d'impatience.
La parole était libre, quoi.
Oui, totalement.
Comment est-ce que vous décririez votre enfance ? Dans quel type de famille vous avez été élevée ?
J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai manqué de rien. Je pense qu'on était un peu le cliché de la famille parfaite. Il y avait mes deux parents. J'avais un petit frère. Et puis, on avait même deux golden. On a grandi un peu à Paris, un peu à la campagne. Voilà, on a eu des vacances au ski. On avait nos chiens. Enfin, j'ai eu une enfance très heureuse, quoi. J'ai manqué de rien.
Quel a été le déclic, alors, pour... ce moment où vous avez dit, tiens, j'ai quand même envie de savoir d'où je viens.
Plusieurs événements, je pense, qu'on constituait ce déclic. Le premier, je pense que c'était quand j'étais en cours de SVT, en 6e. On étudiait l'hérédité. Et je me rappelle qu'on parlait beaucoup des traits physiques, la couleur des yeux, les cheveux. Et je me rappelle que je me suis demandé ce soir-là, et moi, à qui est-ce que je ressemble ? Et j'avais pas ces réponses. Comparé à mes camarades de classe qui, eux, savaient tout de suite, pouvaient identifier à qui ils ressemblaient dans leur famille. Il y a eu, je pense, un deuxième déclic aussi qui a été quand j'avais 15 ans et que j'ai rencontré d'autres filles adoptées qui avaient le même âge que moi et qui, elles, avaient beaucoup de rancœur envers leur famille biologique, qui ne voulaient pas du tout les rencontrer, les rechercher. Et moi, je me suis dit ce jour-là, mais en fait, moi, j'ai absolument envie de savoir, j'ai absolument envie de les rassurer, de les rencontrer.
Et vous en parliez à vos parents adoptifs ? La parole était libre ?
Oui, la parole était vraiment libre. On savait que c'était un sujet qu'on pouvait toucher. Ce n'était pas un sujet qu'on touchait tous les dimanches au repas de famille, mais en tout cas, on savait que si jamais on avait une question, on pouvait la poser. Mes parents ont su depuis toute petite que je me posais des questions, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'étais très curieuse, je posais beaucoup de questions, je demandais pourquoi, comment... comment est-ce qu'on est arrivé ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous adopter, nous, et pas d'autres ? Donc, c'était des questions que j'ai posées et qui ont évolué au fur et à mesure des années. Quand j'étais petite, c'était plus des questions de curiosité. Quand j'étais adolescente, c'était plus des questionnements plutôt intrinsèques de savoir à qui je ressemble, pourquoi moi, pourquoi est-ce que...
C'est ça, la grande question, c'est qu'on se regarde dans le miroir et on se dit, mais... Il y a ce manque d'appartenance physique, d'identité physique. C'est ça qui est le plus important.
Oui, il y a eu beaucoup les traits physiques, de savoir à qui est-ce que je ressemblais finalement. Et puis, il y a eu d'autres questions un peu plus qui ont touché, je pense, un peu ma confiance en moi, de me dire pourquoi est-ce que moi, j'ai été adoptée et abandonnée, alors que d'autres autour de moi ne l'ont pas été.
Alors, comment est-ce que vous avez commencé votre quête et quand déjà ? Enfin, votre quête, votre enquête même.
Alors, il fallait attendre la majorité. Légalement, c'était obligatoire. Je commençais des études de droit juste après mon bac en 2013 et je m'étais dit, je vais attendre de laisser passer ma licence de droit avant de me lancer parce que je savais que ça allait être prenant émotionnellement. Finalement, j'ai réussi à attendre 3 jours seulement. Et j'ai commencé par contacter les services sociaux colombiens pour leur demander mon dossier d'adoption.
Et vos parents, ils n'avaient rien ?
Non.
Ils n'avaient pas de dossier ?
Non, rien du tout. En fait, ils avaient eu quelques éléments au moment de mon adoption, mais des éléments très vagues, comme le fait que ma mère biologique était très jeune et qu'elle n'avait pas forcément de ressources, mais pas plus que ça, et ça avait été dit à l'oral. Mon dossier d'adoption, c'était les services sociaux qui l'avaient. Donc j'ai fait la demande pour recevoir ce dossier. Donc c'était fin novembre 2013. J'ai reçu ce dossier, c'était un dossier de 8 pages que j'ai reçu quelques jours avant Noël, 2-3 jours avant Noël. Je l'ai reçu par mail. Je me rappelle que je l'ai imprimé et j'ai attendu d'être avec mon père pour le lire avec lui. Je ne voulais pas le lire toute seule. Mm-hmm. Et dans ce dossier, il y avait marqué son nom, son prénom.
Il y a tout, en fait, dans le dossier.
Ouais, il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait une photo d'elle d'identité de l'époque, donc quand elle avait 17 ans.
Il y avait son... Vous l'avez vu, la photo d'identité ? Qu'est-ce que
ça
vous avez dit ?
J'ai pu mettre un visage sur des interrogations que j'avais depuis longtemps.
Vous êtes retrouvée dans son visage ?
Pas tellement. C'est sûr qu'on avait des traits un peu familiers, mais ça m'a...
C'était pas flagrant.
Non, c'était pas flagrant. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est les lignes, je pense, les lignes de ce dossier qui disaient qu'elle n'avait pas de ressources, qu'elle décidait de signer pour me donner en adoption. Il y avait le jugement aussi de retranscription de l'adoption avec mes parents adoptifs. Donc c'est le fait de pouvoir enfin mettre des mots sur une histoire qui était la mienne. Et puis à partir de ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire, parce que j'avais ces éléments, mais je ne pouvais pas trop avancer. Il y avait un détective des services sociaux qui m'avait contactée pour me dire qu'il était en charge de retrouver ma mère biologique, du moins ma famille biologique. Donc j'ai attendu, parce que je voulais respecter le fait qu'elle voulait... peut-être ou peut-être pas être en contact avec moi. Un mois et demi plus tard, il m'a recontactée en me disant que selon lui, elle avait disparu, qu'elle était peut-être décédée parce qu'il ne la retrouvait pas.
Donc vous vous êtes dit, tiens, je vais mener l'enquête moi-même alors.
Oui, parce que j'étais intimement convaincue qu'elle n'était pas partie, elle était trop jeune, enfin, elle m'avait eu à 17 ans, donc bon, moi je la cherchais, elle avait 35-36 ans. J'y croyais pas, je pouvais pas me dire que ça pouvait s'arrêter là. Et puis à l'époque, j'avais pas d'autres moyens, donc j'ai pensé à Facebook.
Et oui, les réseaux sociaux.
J'ai pensé à Facebook, ouais, avec mes parents adoptifs d'ailleurs, parce que on se disait finalement tout le monde a Facebook, tu peux essayer par là. Donc j'ai commencé du coup à chercher.
Parce que vous aviez évidemment son nom.
Oui, j'avais son nom, j'avais son prénom, et je savais qu'elle était passée par Bogota. Donc j'avais au moins une ville, et puis j'avais un âge aussi approximatif. Donc j'ai commencé à chercher et puis au bout de 10 jours, j'ai trouvé 2 profils qui correspondaient. Et il y en avait un qui me parlait un peu plus que l'autre, pour plusieurs raisons, parce que déjà, elle est très familier et physique.
Vous connaissez la photo ?
Je percevais quelque chose, c'était une connexion, je pense. Et la deuxième chose, c'est que dans le dossier, il y avait marqué qu'elle avait eu un enfant, une fille, 2 ans avant moi. Et sur le profil Facebook que je ressentais un peu plus, il y avait une photo avec une jeune fille qui avait à peu près mon âge et qui me ressemblait un petit peu. Mmh. Et là, je me suis dit, c'est sûr, c'est elle.
C'est
sûr, c'est elle, ouais.
Donc, vous la retrouvez ? Comment vous avez établi le contact ?
Du coup, toujours dans la volonté de vouloir respecter son choix ou pas de rentrer en contact avec moi, je me suis dit que j'allais l'ajouter en amie, qu'elle allait voir mes photos, qu'elle allait me reconnaître, quoi, comme on se dit en fait dans les films. La mère biologique va tout de suite reconnaître son enfant parce qu'on est liés par les liens du sang. Donc, j'ai l'ajoutée en amie, elle m'a acceptée et j'ai attendu. Et il y a une semaine qui est passée, moi, j'étais morte de curiosité et je n'ai pas eu de message. J'ai été un petit peu déçue parce que je me disais, je ne comprends pas. Soit elle ne veut pas me parler, soit elle ne me reconnaît pas et auquel cas, c'est...
Oui, vous attendiez à ce que tout de suite, elle vous...
Oui. Qu'elle m'écrive, qu'elle me reconnaisse, qu'elle me dise merci de m'avoir recontactée, que ça se fasse très rapidement. Quoi. Au bout d'une semaine, j'ai décidé de lui envoyer un message pour lui dire bonsoir, je ne sais pas par où commencer, je ne sais même pas si vous savez qui je suis.
En espagnol ?
Oui. Ouais. J'ai eu la chance d'être adoptée par une maman adoptive colombienne. Du coup, j'avais pas la barrière de la langue. Je lui ai donc écrit en espagnol en lui disant que voilà que je savais pas si elle savait qui j'étais et elle m'a répondu bonsoir. Non, vous pouvez commencer par me dire qui vous êtes. Et là, ça a été un peu un choc pour moi parce que je me suis dit en fait elle me reconnaît pas alors que c'est celle qui m'a donné la vie quoi. Et je lui ai dit, je suis née le 29 novembre 1995 sous le nom de Louisa à Bogota. Et elle m'a écrit tout de suite en majuscule en me disant je sais qui tu es, j'ai beaucoup pensé à toi à chaque anniversaire, je suis retournée à l'orphelinat plein de fois, j'ai regretté ma décision mais c'était trop tard, je savais pas si t'étais vivante ou pas, je savais pas où tu étais, et là c'était une machine à laver de sentiments parce que moi j'étais super heureuse mais en même temps j'avais plein de questions et puis je pouvais enfin parler à celle que j'avais idéalisée pendant plusieurs années.
Alors un jour, vous avez décidé d'aller à Bogota pour rencontrer votre mère et toute la famille, évidemment, votre famille biologique. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand vous arrivez à Bogota ?
C'était flou. J'étais hyper excitée à l'idée de rencontrer tout le monde, de pouvoir mettre des visages, de pouvoir les rencontrer, les toucher, leur parler. Et en même temps, j'avais peur. En même temps, j'avais peur de ce que j'allais trouver. J'avais peur de la manière dont j'allais être reçue. Est-ce que ça allait bien se passer ? Finalement, même si j'ai imaginé ce moment pendant plein d'années, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il n'y a pas de mode d'emploi.
Alors, le jour de la rencontre, c'est juillet 2014.
C'est ça.
Comment ça se passe, alors, cette journée ? Racontez-nous.
Alors, j'avais décidé de partir toute seule à Bogota, en Colombie, parce que pour moi, c'était une manière plus simple de faire la part des choses entre ma vie en France et ma vie en Colombie, du moins ces retrouvailles. Sur place, j'avais des proches qui étaient là pour m'accueillir et j'avais décidé de connaître ma sœur biologique, du coup, avant tout le monde, parce que c'était avec elle, avec qui j'avais une connexion tout de suite très fluide, très naturelle. On s'est rencontrés donc dans la maison de ma cousine. Quand on s'est vus pour la première fois, c'était hyper fort. Parce qu'en plus, on se ressemble pas mal. Donc, il y avait en même temps les ressemblances physiques. Et puis, j'étais juste hyper contente de retrouver une sœur, de pouvoir reprendre tout.
On sent que vous avez des liens plus fluides, plus forts avec votre sœur, finalement, qu'avec votre mère biologique.
Ouais, parce que je pense que c'est une relation plus pure, dans le sens où il n'y a aucun sentiment du passé qui vienne interférer à tout ça. On n'a rien demandé à personne. On était séparés quand je suis née. Donc, on a tout un peu à gagner dans notre relation.
Et 7 ans après, alors, vous vous dites quoi ? Vous dites...
On repart à zéro, quoi.
Vous avez quoi comme type de rapport avec votre mère biologique ?
Avec ma mère biologique, on a mis du temps, je pense, à trouver une relation... trouver une stabilité dans notre relation. Quand on s'est rencontrés, c'était très, très fort. On a beaucoup parlé, beaucoup repris les choses à zéro, mais c'est sûr qu'il y avait des sentiments de mon côté. Je pense qu'il y avait un peu inconsciemment une rancœur de m'avoir abandonnée, de ne pas avoir compris pourquoi. Moi, je suis celle du milieu. Il y a eu un petit garçon après, donc je ne comprenais pas forcément pourquoi moi, j'avais été abandonnée et pas les autres. Et de son côté, je pense qu'il y avait une volonté de vouloir se montrer un peu sous le meilleur jour aussi, parce qu'elle voulait que tout se passe bien.
Qui rend les rapports un peu artificiels, évidemment.
Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai souvent eu ces dernières années l'impression qu'on n'avait pas une relation vraiment transparente, vraiment honnête. Moi, je ne voulais pas du tout la juger. J'étais dans une démarche vraiment de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis d'elle. Et j'avais envie qu'on ait une relation vraiment honnête, qu'on puisse repartir à zéro. Je me rappelle d'un moment où je devais avoir 21 ans et puis j'étais un peu malade. J'avais eu une grippe, quoi. Et puis elle m'écrivait souvent pour me dire est-ce que tu te soignes bien ? Est-ce que tu te reposes bien ? Est-ce que tu prends des médicaments ? Moi, je me rappelle m'être braquée parce que je me suis dit mais elle est en train d'agir comme...
Elle prend la place de ma mère qu'elle n'est pas, en fait.
Ouais, et puis cette place, elle était déjà prise par quelqu'un.
Docteur Fanny Cohen-Herlem, bonjour. Merci
bonjour.
D'être sur ce plateau. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste. Vous accompagnez les familles adoptives avant et après l'arrivée de leur enfant. Et vous êtes aussi l'auteur de L'adoption en question et les questions des enfants adoptés. C'est aux éditions Pascal. Gabriella, elle savait depuis toujours qu'elle était adoptée. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a un moment vraiment propice pour annoncer à son enfant qu'on l'a adoptée ?
Alors, je pense que les enfants savent profondément qu'ils ont été adoptés, ou en tout cas qu'ils ont été abandonnés, parce que passer des bras ou passer d'un corps à des bras qu'on ne connaît pas du tout, je pense que les enfants savent cela dans leur corps.
Oui, en tout cas, c'est inscrit quelque part.
Voilà, absolument. Donc, le travail des parents adoptifs, après, ça sera effectivement de faire avec ça et de pouvoir leur en parler, en fait, quand ils en auront envie, le plus tôt étant toujours le mieux. Mais il ne s'agit pas de dire « ta mère t'a abandonnée, ma pauvre » ou je ne sais quoi, mais plutôt de leur dire quelque chose de très positif, c'est du style « on est content que tu sois là, on t'attendait depuis longtemps, on est allé te chercher, voilà comment on t'a présenté à nous ». Et ça, ça peut se dire à des bébés qui le perçoivent très très bien.
Ce qui permet aussi que la parole soit tout de suite libérée, donc c'est plus facile, j'imagine, pour les parents.
Ouais. On a reçu une question en voyant vidéo pour vous de Quentin, regardez.
Bonjour à toutes et à toutes. Donc je me présente, Quentin, adopté du Mali. Et moi, je voudrais savoir pourquoi tant d'enfants, même ayant été élevés par des familles heureuses, ont besoin de connaître leurs origines.
Ah oui, c'est une vaste question, effectivement. Moi, je crois que les enfants, ils ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire, même s'ils sont dans une famille qui les aime et dans laquelle ils se sentent bien, de savoir pourquoi il y a eu cette rupture première ou seconde, la naissance en étant la première, pourquoi il y a eu cette rupture, qu'est-ce qui s'est passé pour leurs parents de naissance, dans quelles circonstances ils ont été obligés de les abandonner, qu'est-ce qui les a poussés, et puis du coup qu'ils puissent avoir la possibilité de reconstruire leur histoire. Tout simplement. Ça permet de faire un lien entre le passé et le présent qu'ils vivent.
Tout simplement.
Ouais. Est-ce que vous savez à partir de quel âge les enfants se posent cette question de leurs origines ?
Oui, alors je pense que c'est plutôt aux alentours de 8 ans, on dit classiquement que c'est l'époque où les enfants se posent les questions de la mort parce qu'ils ont une notion du temps qui est beaucoup plus précise, enfin du temps long. Hein, et du temps qui passe. Et je pense que c'est, voilà, c'est dans ces âges-là que la question se pose pour eux.
Bettina vous demande, pour les enfants nés par don de gamètes, que ce soit de sperme ou ovocytes, faut-il leur expliquer en détail comment ils ont été conçus ? C'est un peu la même idée, non, de quête des origines ?
Oui.
Il n'y a pas la notion d'abandon, là.
Non, ça voilà, extrêmement différent. Il y a un don. Alors là, pour le coup, il y a un don de gamète, effectivement. Alors, la question, c'était...
Est-ce qu'il faut leur expliquer, clairement, appeler un chien un chat dès le début, aussi
je crois que... Je me suis souvent dit que c'était des questions d'adultes que ne se posaient pas les enfants. Et que je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement à respecter, qui est le désir de connaître des enfants et de ne pas aller, je dirais, au-devant de leurs questions, parce que s'ils ne posent pas la question, c'est que ils n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour pouvoir faire quelque chose avec ce qu'on va leur dire.
Il n'y a pas le risque d'en faire un tabou si on
le
dit.
Alors, il ne faut pas en faire un tabou. Voilà. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que bien sûr, ça doit pouvoir se dire, mais au moment où j'ai envie de dire, c'est pas une réponse. Là, je suis désolée, mais il n'y a pas de timing précis. Mais au moment où les parents sentent que c'est possible, que l'enfant est en capacité d'entendre et qu'il va pouvoir en faire quelque chose. Parce que ça, sinon c'est trop compliqué pour eux.
Et Samia réagit au témoignage de Gabriella, tout ce qu'on a écouté ensemble tout à l'heure. Elle dit « Les parents adoptifs de Gabriella ont accompagné ses recherches pour retrouver sa famille biologique. Ça doit être difficile de se lancer dans une quête tout seul. »
Ah oui, il vaut mieux pas le faire tout seul, effectivement, pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est compliqué. Alors, ça dépend où on est né. Si on est né en France, il y a quand même des services qui s'en occupent bien et on sait à qui s'adresser, notamment le CNAOP ou le service adoption qui vous a placé en tant qu'enfant chez ses parents. Si c'est à l'étranger, c'est plus compliqué. Et donc, il y a des questions juridiques qui se posent. Donc, il faut être accompagné sur le plan juridique et sur le plan psychologique, parce que c'est quand même quelque chose de très bouleversant dans la vie des personnes, que ce soit le jeune qui cherche à retrouver ses parents biologiques ou bien la famille d'origine qui va aussi être impactée.
D'ailleurs, vous dites le jeune, ça arrive que ce soit sur le tard qu'on parte à la recherche de ses origines ?
Moi, je le vois le plus souvent chez les jeunes majeurs, dans la réalité, si vous voulez. Parce que de toute façon, comme le disait Gabriella tout à l'heure, il y a des pays où il faut avoir 18 ans pour pouvoir faire la recherche. Donc, il faut quand même avoir une certaine maturité pour pouvoir y faire face, comprendre vraiment pourquoi on cherche, ce qu'on cherche, ce qu'on en attend, etc. Donc, il y a plein de questions à se poser. Et ce n'est pas quand on a 12, 13 ans, 14 ans qu'on peut y répondre. On peut se questionner, évidemment, on se questionne d'ailleurs. Mais si vous voulez, la démarche concrète, à mon avis, elle se fait, enfin, en général, elle se fait plus tard. Et c'est, je pense que c'est mieux.
Et après, en fonction des pays, pardon, Yasmine, en fonction des pays, est-ce que certains pays bloquent ? Est-ce que c'est plus dur dans certains pays ?
Alors, c'est pas que les pays bloquent, c'est qu'il y a certains pays où il n'y a pas d'éléments permettant réellement de retrouver les parents de naissance. Hein. Ici, on est en France, dans les pays occidentaux, enfin les pays d'accueil, comme on les nomme, ils ont en général des structures extrêmement développées.
Des registres bien tenus.
Et des registres bien tenus. Il y a des pays où il n'y a pas de registre de naissance.
Alors, vous conseillez d'attendre. Magali, elle a un fils aîné de 14 ans qui souhaite en savoir plus sur ses origines et elle se demande comment l'accompagner dans sa quête en ayant très peu d'informations sur ses parents biologiques.
Oui, alors la question première, c'est de savoir s'il est né en France ou s'il est né à l'étranger. S'il est né en France, il y a d'abord les services d'adoption du département où il est né qui doivent pouvoir commencer à renseigner la famille. Et ensuite, il y a le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, qui est créé depuis 2002, je crois, et qui permet de commencer les recherches. Voilà, pour la France. Mmh. Pour l'étranger, il y a d'autres moyens. Il y a d'abord l'organisme autorisé pour l'adoption qui a procédé à l'adoption, enfin l'intermédiaire. Ça peut être l'Agence française de l'adoption également. Donc on passe par ces intermédiaires pour essayer d'aller au-delà.
Mais là, par exemple, elle dit que son fils a 14 ans, donc il y a certainement des démarches que lui ne peut pas faire parce qu'il n'est pas majeur. Peut-être que ce qu'elle attend de savoir, c'est... quelle part, en fait, les parents doivent prendre à cette recherche ? Est-ce que c'est une part très active quand ils sont mineurs ?
Comment ? Alors, ça va dépendre. Je crois que si le jeune est vraiment en demande, même s'il est mineur, je pense que de toute façon, pour n'importe quel parent, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'accompagner. Quand je dis en capacité, ce n'est pas seulement juridique, c'est une question psychologique. Mm-hmm. C'est-à-dire se sentir suffisamment sûr de soi en tant que parent pour pouvoir aider son enfant à aller vers là où il veut aller. Et donc, ça, il peut y avoir une part active, mais une part active qui ne soit pas, comme je le disais tout à l'heure pour parler de l'adoption, c'est qui ne va pas au-delà des demandes des enfants. Oui. C'est-à-dire que les parents, ils ne doivent pas précéder les demandes des enfants, quel que soit leur âge. Ils doivent attendre et accompagner. Accompagner, ça dit bien ce que ça veut dire.
Ouais.
Hiram nous dit « Nous avons adopté notre fille à 5 mois, elle a aujourd'hui 8 ans, tout va bien, mais l'adolescence nous inquiète. Avez-vous des conseils pour que cette période se passe au mieux ?»
L'adolescence, c'est...
De toute c'est façon, s'il y avait vraiment des solutions pour tout le monde...
Oui, ça serait génial.
Ça serait génial.
Je ne les ai pas toutes dans ma poche, mais je crois que pour préparer l'adolescence, eh bien, ça se prépare très tôt, c'est-à-dire avec de la confiance, du dialogue, pas de tabou, pas de secret, un accompagnement des règles, etc. etc. Je crois que c'est vraiment ça la question, c'est-à-dire que de toute façon, il y aura un bouleversement, il faut que les parents s'y attendent, ça serait bizarre s'il n'y en avait pas. Et que donc, eux, ils doivent surtout, eux, se sentir très solides dans leur position de parents. C'est vraiment ça qui est important. Ils sont légitimes.
Et jamais de rupture de dialogue, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs sur tous les sujets. Jamais de rupture de lien, on lâche jamais. Quoi.
Non.
Mais est-ce que l'adolescence, finalement, elle est encore plus compliquée quand il y a eu une adoption ou pas forcément ?
Si, elle est plus compliquée. Parce que l'adolescence, c'est le moment où on prend d'autonomie, où on est en quête identitaire. Donc, pour des enfants lambda, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe avec des heures, des malheurs et des choses très belles. Mm-hmm. Chez les enfants adoptés, il y a eu une rupture. Donc, si vous voulez, la quête identitaire, elle est plus complexe parce qu'effectivement, elle va se nicher du côté des parents d'origine. Et quant à la séparation et la prise d'autonomie, c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont subi une séparation brutale, la plupart du temps, malgré tout, hein, quelle que soit la façon dont elle s'est passée. Mmh. Et donc, du coup, se séparer, c'est peut-être se perdre. Donc, prendre de l'autonomie par rapport à ses parents, entre parenthèses adoptifs, c'est risquer de les perdre. Donc, du coup, il y a quelque chose d'extrêmement ambivalent dans cette quête qui rend les choses plus complexes.
Et tous les enfants adoptés passent par cette étape-là ?
Plus ou moins. Après, ça dépend.
Il n'y en a pas certains qui vraiment ne ressentent pas ce besoin
D'aller chercher leurs parents naissance. Si, il y en a.
Moi, j'ai une demi-sœur qui est colombienne d'origine, qui pas du tout le besoin d'aller chercher, pas du tout.
Absolument, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une même famille d'enfants adoptés, on peut avoir certains qui ont besoin de rechercher leur famille de naissance, enfin, leurs parents de naissance, et d'autres pas du tout.
Émilie nous dit, ma fille de 16 ans souhaite faire un test ADN sur Internet pour connaître ses origines. Alors là, sujet sensible. Est-ce une bonne idée et comment l'accompagner psychologiquement au moment des résultats ?
Oui, non, mais les tests ADN, ça ne va pas lui donner des personnes, ça va lui donner...
C'est pas interdit en France ?
Si, c'est interdit en France, préciser, oui, merci de rappeler.
Mais ça, c'est les tests... Ma fille souhaite prendre de l'héroïne, super idée. Non, c'est interdit en France, néanmoins, on peut le faire en envoyant notamment aux États-Unis, on reçoit les résultats.
Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est des... Si vous voulez, ça donne une cartographie, c'est-à-dire que cette maman, cette mère, elle doit savoir que... Et expliquer à sa fille que le test ADN va lui donner une cartographie de ses origines possibles. C'est des statistiques.
Donc ça... 25% d'origine, je ne sais pas quoi, caucasienne, oui, c'est ça, 30% voilà. d'origine, machin.
Voilà, donc ça ne va pas lui donner grand-chose. Ce qui est surtout important, me semble-t-il, c'est de savoir ce que cette jeune fille recherche en réalité. Qu'est-ce qu'elle aimerait savoir et pourquoi elle aimerait savoir ça? À quel moment de son développement ça se situe? Parce que je crois qu'il faut toujours contextualiser ce genre de recherche qui ne se passe pas à n'importe quel moment. Et donc, une fois que les choses seront un petit peu mises à plat, la mère pourra accompagner sa fille, mais en comprenant mieux ce qui se passe, à condition que cette jeune fille, elle puisse lui expliquer aussi un peu mieux.
Après, à force de faire ça, il y a des banques de données quand même qui se créent, qui permettent de retrouver des frères, des sœurs, des cousins, etc.
Mais des supposés frères, sœurs, cousins. Oui. On n'en est pas encore au 100%.
Non, mais c'est arrivé quand même.
Oui, écoutez, pourquoi pas. Je veux dire, on peut rêver, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche? Pour moi, la question, elle est vraiment là. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? C'est quoi ce besoin? Alors, je peux imaginer que ça fait fantasmer, ça fait rêver. Oui. Moi, j'ai des origines de là. Donc, je vais voir quoi.
Voilà, ça peut être marrant de savoir qu'on a des origines vikings ou je ne sais pas trop.
Absolument.
Même pas y mettre trop de pression.
Cherche, quoi.
Non. Ouais. Ben oui. Mais c'est pour ça que ça s'appelle des tests récréatifs à l'heure actuelle.
Oui, c'est vrai.
Il faut quand même se rappeler ça. Donc, c'est un jeu. Mais on sait que pour les enfants, le jeu, c'est quelque chose d'hyper sérieux.
Alors Bertrand, donc toujours sur cette recherche des origines, lui, il vous parle du don de sperme. Est-il vrai qu'ici, d'ici la fin de l'année, le don de sperme ne sera plus anonyme? Et qu'est-ce que ça va changer?
Ah, oui. Alors, ça va sûrement changer beaucoup de choses, je pense. Moi, l'idée que je m'en fais, mais peut-être que je me trompe totalement.
Déjà, c'est vrai qu'il ne va plus être anonyme.
Est-ce que la loi de bioéthique est passée sur ce point-là?
Alors, elle est passée. Est-ce que le décret est passé, lui? J'en suis pas sûre.
Voilà, c'est ça, moi non plus. Donc,
déjà, il risque d'y en avoir moins.
Pardon?
Il risque d'y en avoir moins.
Absolument.
Ah oui, alors, pas forcément, parce que dans les pays comme le Danemark, où les dons ne sont pas anonymes, il vous explique que ça change.
Oui, mais on n'est pas au Danemark.
On
n'est pas au Danemark, on est en France avec une certaine culture, qui n'est pas une culture de secret, mais qui est cette culture-là. Moi, je pense que les gens, quand ils donnent leur gamète, ils n'ont pas forcément envie de devenir parents des enfants conçus avec leur gamète. Je crois qu'ils ont surtout envie de faire un don. C'est pour ça que ce n'est pas payant, d'ailleurs, en France, que ce n'est pas rémunéré. Et de donner à des couples infertiles la possibilité d'avoir des enfants. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre chose qui est peut-être intéressante pour les enfants nés par don de gamètes, c'est qu'ils vont pouvoir avoir accès à leur... Alors, je vais dire géniteur, j'aime pas ce mot, mais c'est aux personnes qui ont fait le don. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on lit la Convention européenne des droits de l'homme, je veux dire, le droit de connaître ses origines, c'est quelque chose qui est écrit. Je crois que c'est l'article 34 ou un truc comme ça, mais je ne suis pas juriste.
Et donc, 35, quoi.
Peut-être. Donc, je crois que c'est un droit, et je crois que c'est très important, effectivement, que ce droit soit appliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? On a vu, je veux dire, moi j'ai vu comme vous des jeunes adultes qui ont retrouvé leur père biologique, enfin un homme qui avait donné ses spermatozoïdes. Ces hommes n'étaient pas mécontents forcément de rencontrer ces jeunes gens, mais ils n'avaient pas grand-chose à faire ensemble.
Bien sûr,
oui, c'est ça.
Voilà, c'est une rencontre. Après, c'est une histoire, j'ai envie de dire, humaine. C'est-à-dire, on se rencontre. Est-ce qu'on a du plaisir à se rencontrer? Est-ce qu'on a envie de se revoir? Mais à partir de gamètes, bon, ouais, je ne sais pas.
C'est juste peut-être pour comprendre. Voilà, j'ai les cheveux frisés. Oui. Ah ben lui, il avait ça dans sa famille.
Oui, tout à fait.
C'est surtout les maladies aussi.
Les maladies, voilà. Ça, c'est...
Mais oui,
c'est
moi, pour je pense ça... aux cheveux, vous pensez aux maladies.
Bon, voilà. Voilà, de chacun ses angoisses. Chacun ses angoisses existentielles. Moi, personnellement, les cheveux, ça y est, c'est passé.
Non, mais c'est pour ça qu'au niveau de la CEDH, c'est un droit, si vous voulez, que c'est normal que la France l'applique, même s'il y a des résistances. Hein. C'est quand même très, très important, parce que c'est vrai que par rapport à l'étranger, par exemple, souvent, on va chez le médecin avec son enfant adopté qui demande quels sont les antécédents familiaux.
Et là, mystère.
On est coincé.
Oui.
Merci beaucoup Fanny Cohen-Herlem et merci infiniment à Gabriella d'être venue nous voir ce matin dans la maison des maternelles. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, sur les réseaux, c'est pas simple à dire, hein, de l'émission. Donc n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages si vous avez des idées de thèmes, s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans l'émission en podcast, c'est déjà pas mal. Vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez. Et puis moi, bah, je vous retrouve demain à l'antenne de France 2. Ciao tout le monde.